12h30 sur Europe 1.
Elle fait partie.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Alors, c'est le moment d'accueillir en studio notre invité pour ce dossier santé consacré à notre foie. C'est vous. Bonjour, professeur Laurent Casterin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy et également l'auteur du livre « Comment sauver votre foie, la vérité sur la NASH » chez Duno. On va commencer cet entretien par un peu d'anatomie, si vous le voulez bien. Alors, le foie est un organe peu connu, contrairement au cœur ou au cerveau. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel anatomique, s'il vous plaît ?
Tout à fait. Donc le foie, c'est l'organe le plus volumineux de l'organisme. Il mesure 10 cm sur 20 cm, pèse 1,5 kg, est situé à droite et exerce plus de 300 fonctions. Et enfin, c'est le seul organe qui a la capacité de se régénérer, un peu comme la queue du lézard.
Ça veut dire quoi ? On coupe et il repousse ?
Absolument.
Ah bah génial.
Et contrairement à d'autres organes, il ne fait que très peu parler de lui. C'est pour ça peut-être que nous, on s'y intéresse assez peu. Même malade, c'est pas un organe qui est bruyant, jamais, quasiment.
Non, les maladies du foie sont silencieuses et lentes. C'est-à-dire il faut 10, 15, 20, voire 30 ans pour développer une cirrhose. Et c'est ce que j'appelle le syndrome du docteur Knock. Mm-hmm. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Il n'y a aucun symptôme.
Ouais,
quand vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Quand vous avez une cirrhose, vous n'allez pas forcément voir les pathologues parce que vous ne le savez pas. Et donc, il y a un gros effort de sensibilisation à faire, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
La crise de foie, d'ailleurs...
Vous en avez eu, non, vous, quand vous mangez beaucoup de gâteaux ?
Bah oui, mais apparemment, j'apprends avec votre livre que ça n'existerait pas ?
Non, malheureusement, la crise de foie n'existe pas. C'est juste une indigestion. Donc, c'est plutôt du côté des intestins que ça se situe.
D'accord, le foie n'a rien à voir avec tout
Absolument.
Ça.
Bon, vous avez dit qu'il avait 300 fonctions, ce foie. Nous, on sait grosso modo qu'il sert à filtrer les toxines, mais on ignore que c'est vraiment un super organe. Il fait beaucoup plus que ça. On va peut-être pas citer les 300, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer grosso modo à quoi il sert ?
Non, il participe à la synthèse des protéines. Donc, les protéines, c'est les muscles, les os... Les ongles, voilà, des choses importantes, des protéines aussi comme des enzymes, comme des hormones, comme des anticorps. Donc vous voyez que c'est extrêmement important. Il fait aussi la bile, il fabrique la bile qui sert à digérer les graisses, comme votre liquide vaisselle, à dissoudre les graisses. Et bien sûr, il sert aussi à épurer les toxines et également les médicaments.
On disait qu'il filtrait le sang notamment, mais il filtre le sang et pas qu'une seule fois dans la journée, hein. C'est combien de fois ?
Ah, il filtre à peu près 100 fois par jour tout votre sang.
Ah quand même !
1,5 litre par minute.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de tour de contrôle ce foie ?
Oui, c'est une tour de contrôle métabolique parce qu'il contrôle également le sucre et les graisses. Et le sucre, notamment le glucose, c'est le carburant de l'organisme pour le cerveau et pour les muscles. Et donc, le niveau de sucre dans le foie, ce qu'on appelle la glycémie, est contrôlé par le foie. Mmh. Donc, quand on a un diabète, par exemple, le foie joue une responsabilité.
D'accord.
Il sert aussi à fabriquer le cholestérol, le foie. D'ailleurs, ce cholestérol, il n'est pas forcément mauvais. On va s'arrêter là-dessus. À quoi ça sert ? Expliquez-nous concrètement.
Alors, le cholestérol, c'est effectivement majoritairement synthétisé par le foie. C'est présent dans toutes les membranes des cellules. C'est présent aussi dans la vitamine D, c'est présent dans les hormones, notamment les hormones sexuelles. Donc, vous viendrez que ça peut être utile.
Oui.
Et par ailleurs, donc, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Donc, le cholestérol LDL, il va du foie vers les tissus de l'organisme et il peut en chemin s'accumuler dans les artères et entraîner de l'athérome. Et c'est ce qui entraîne les AVC.
Il bouge les artères.
Donc ça, c'est le mauvais cholestérol.
C'est le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, le HDL, il fait le chemin en sens inverse et lui, il ramène vers le foie. C'est pour ça que c'est le bon cholestérol.
Ça, on le voit sur une prise de sang, HDL, LDL. Et donc le bon, c'est le HDL, c'est
Absolument.
Ça ?
Absolument.
Très bien.
D'accord. En revanche, trop de gras, trop de cholestérol va littéralement engraisser le foie. Et là, c'est le début des problèmes ?
Oui, mais à vrai dire, ce n'est pas la graisse, c'est les sucres qui engraissent le foie.
D'accord.
Contrairement à ce qu'on pense.
Ah
c'est
oui,
trop de sucre dans le sang. Lorsqu'il y a trop de sucre dans le sang, c'est stocké sous forme de graisse dans le foie.
Ah donc, d'accord. Votre ennemi à vous, hépatologue, ce n'est pas la graisse, c'est le sucre.
Non, la graisse, c'est l'ennemi des cardiologues et le sucre, l'ennemi des hépatologues.
Donc, vous pouvez continuer à manger pas des gâteaux, mais par contre du foie gras ou du beurre ou tout ça, il y a moins de problèmes du coup.
Pour le foie.
En fait, c'est surtout les sucres transformés dans des aliments ultra transformés qui sont mauvais.
Oui, non, mais tu dis que du bon sucre, Julia.
Oui, tout ce qui est plein industriel, évidemment, mais ça, c'est
Absolument.
Mauvais pour tout le monde, hein, et pour tous les organes, apparemment.
Absolument.
Très bien. Professeur Castera, on ne va pas vous lâcher comme ça. Vous restez avec nous. On a encore pas mal de choses à voir ensemble, notamment comment savoir qu'on est atteint par cette maladie du foie gras, la maladie du soda. Et ça vaut vraiment le coup de s'interroger, car c'est une maladie grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Si on la prend en charge très tôt, on va tout vous expliquer très simplement sur Europe 1.
Europe 1, 11h, 12h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on vous fait du bien dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Et là, tout de suite, on prend soin de votre santé, ou plutôt de celle de votre foie. Et notre médecin expert sur le sujet, c'est vous, professeur Laurent Castera. Je rappelle que vous êtes hépatologue à l'hôpital Beaujon de Clichy et également l'auteur du livre « Comment sauver votre foie, la vérité sur la nage chez Duno ». Alors, expliquez-nous, professeur, pourquoi c'est si problématique finalement d'avoir un foie humain gras, hein, bien sûr. À ce stade, on n'a toujours aucun symptôme. On est d'accord, là, on a décrit ce foie gras un tout petit peu. Quand il devient gras, il devient plus gros, j'imagine, quand on mange trop de sucre, hein, surtout, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Donc, le gras en soi, ce n'est pas gênant. Le problème, c'est de développer de l'inflammation et ensuite de la fibrose. Si je me coupe, je vais faire une cicatrice. Si je me recoupe à nouveau, une plus grosse cicatrice et ainsi de suite. Et la cicatrice, c'est ce qu'on appelle la fibrose, avec le risque de développer une cirrhose. Donc ça, c'est le problème de toutes les maladies chroniques du foie, hein, que ce soit l'alcool, que ce soit l'hépatite B ou l'hépatite C.
C'est un foie blessé, cicatrisé, qui devient gros et...
Exactement, ouais. C'est un foie cicatriciel et qui finit par ne plus fonctionner.
Et on est combien de Français à avoir un foie gras ?
Alors, à peu près un Français adulte sur 5 a le foie gras.
Ah oui, quand même, c'est énorme.
En France, si je vous mets ça en chiffres, c'est à peu près 10 millions. Et la plupart l'ignorent.
C'est plus des hommes ou des femmes ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est les hommes, je ne sais pas pourquoi.
C'est plutôt les hommes.
Ouais.
Ensuite, parmi ces 10 millions, environ 1 million vont développer une NASH. Donc la NASH, c'est la forme active de la maladie, avec l'inflammation.
Celle qu'on appelle parfois la maladie du soda, la maladie du foie gras, donc c'est la NASH.
Improprement la maladie du soda, parce que bien sûr les sodas jouent un rôle, mais il n'y a pas que les sodas, comme je vous ai dit, c'est tous les aliments sucrés.
Et il n'y a pas de symptômes sur la maladie du NASH ?
Aucun symptôme. Et parmi ces patients... Il y en a encore 10% qui sont à risque de développer une cirrhose. Donc, ça fait à peu près 100 000 patients actuellement en France qui ont une cirrhose liée à la maladie du foie gras ou à la NASH et qui, pour la plupart, l'ignorent parce que la plupart du temps, la cirrhose, elle est diagnostiquée à un stade tardif quand il y a des complications.
Mais moi, j'ai très peur. Parce que si
sur 5 qui ont foie gras déjà, mais pas forcément une maladie du soda, pas une NASH, mais un foie gras.
Mais s'il n'y a pas de symptômes, vous n'avez pas un test, quelque chose pour qu'on sache où on en est avec notre foie ?
Le but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de sensibiliser l'opinion. Bien sûr, il y a 10 millions de Français qui ont le foie gras, mais il y en a seulement 1% qui sont à risque d'avoir une cirrhose. Et tout l'enjeu pour nous, spécialistes, c'est d'aller repérer ces patients. Donc, je vais vous donner une petite recette.
S'il vous
un
plaît.
Truc assez simple.
Notez, hein, Julien,
je note.
Hein,
si vous vous basez sur l'âge, on va dire, allez, à partir de 40 ans.
Oui, j'en suis.
J'ai visé juste.
Oui, c'est ça. Je vous remercie. Ça, c'est fait.
Si vous avez un surpoids.
Ce qui n'est pas son cas.
Ça pue l'être. Est-ce que ça compte ?
Non, ce qui compte, c'est vraiment le
poids actuel.
Voilà, le poids actuel. Un diabète.
Pas encore.
Un peu de cholestérol.
Non
et
plus.
L'hypertension artérielle. Donc, si vous n'avez aucun de ces facteurs, la probabilité d'avoir le foie gras, elle est faible, moins de 5%.
D'accord.
En revanche, si vous avez les 5 facteurs, c'est plus de 90%.
Ah, mais
vous voyez, sur ces 5
facteurs... Et quelques-uns,
facteurs,
plus il y en a de facteurs, plus on a
voilà.
de risques.
Et bien sûr, ça s'additionne de façon linéaire.
Vous avez dit quand même en France, donc juste, on parle simplement pour l'instant de la maladie du foie gras. Le foie qui est gras, on n'a pas encore de cirrhose, on n'a pas encore la fameuse NASH. Vous avez dit en France, un Français sur 5, à cause du sucre notamment, et pas que du soda, on a compris. Mais ce que vous dites là, aux USA, ça doit être une épidémie dans ce cas, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus encore en surpoids que nous. Les sodas, le sucre, j'ai l'impression que c'est pire, non ?
Absolument. Si on regarde les prévisions, c'est probablement 100 millions d'Américains qui auront la maladie du foie gras en 2030. Donc 2030, c'est demain. Actuellement, c'est en train de devenir la première indication de greffe hépatique aux États-Unis.
Et on suivra le même chemin si on ne fait pas attention, évidemment.
Comme souvent, on suit le chemin des États-Unis avec 10 ans de retard.
Bon, on fait de la prévention aujourd'hui, c'est ça qui compte.
Ce que je suis en train de comprendre avec ce que vous dites, professeur, c'est qu'on peut abîmer son foie sans boire une seule goutte d'alcool ?
Absolument. Tout le monde sait que l'alcool, c'est mauvais pour le foie. Par contre, les gens savent moins que la sédentarité, la malbouffe...
Le sucre, le
surpoids, le diabète... c'est mauvais pour le foie et ça peut entraîner une maladie chronique du foie jusqu'à une cirrhose.
Mais on peut dire que le sucre est aussi mauvais que l'alcool pour le foie, c'est possible de dire ça ?
Non, je dirais pas les choses comme ça, mais une fois de plus, c'est le sucre qui est responsable de la graisse dans le foie. Ça, c'est important.
Et si on fait sucre plus alcool, là, pour le coup, c'est foie gras et cirrhose assurée, quoi.
Voilà, c'est 1 plus 1 égale 4.
Ouais. Ah oui, quand même, d'accord. Une fois que le foie gras donc, a évolué, on l'a dit, vers cette maladie du soda qui porte pas très bien son nom, la fameuse NASH, là encore, vous l'avez dit, même quand il est très malade, quand il y a la NASH, il n'y a pas de symptômes, on ne le sent pas qu'on a cette maladie, même pas de douleur ou quelque
rien,
chose.
Aucun symptôme. Donc c'est pour ça qu'il faut la dépister précocement. Et la bonne nouvelle, c'est que le foie gras, c'est réversible.
Mmh. Mais alors, vous dites dépister, comment on fait pour dépister ?
Alors justement, il y a des choses assez simples, comme je vous ai dit, les facteurs de risque.
Bien sûr.
Ensuite, il faut faire une prise de sang auprès de votre médecin, donc une prise de sang très simple, le dosage des transaminases, et une échographie, puisqu'on peut faire le diagnostic de foie gras à l'échographie.
On verra qu'il est bien rebondi ce foie, qu'il a des quelques bourrelets, ça vous le voyez à l'écho ?
Non, on voit qu'il est brillant à l'échographie.
Et ça,
et
c'est
le fait
signe.
Qu'il soit brillant, ça veut dire qu'il y a du gras.
D'accord.
Dans ces cas-là, il faut faire un autre examen pour savoir en fait, s'il y a une NASH et une fibrose surtout avancée. Il y a des tests sanguins, un test très simple qui s'appelle le FIB4, qui comprend l'âge, les transaminases et les plaquettes. Donc vous voyez, c'est un test gratuit, il faut 30 secondes pour le calculer. Si le score est inférieur à 1,3, la probabilité d'avoir une maladie du foie, elle est moins de 5%.
D'accord.
Et ensuite, l'examen que va faire le spécialiste, c'est un examen qui s'appelle le fibroscan, qui est un examen qui mesure l'élasticité du foie, la dureté du foie.
Voilà, comment vous faites ça ? C'est
alors,
le stéthoscope
ressemble...
du foie, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est le stéthoscope du foie. C'est comme une échographie modifiée, ça prend 5 minutes, les résultats sont immédiats et en fait c'est le diagnostic minute de cirrhose.
Puisque ça paraît si simple, pourquoi on ne dépiste pas
tout
le monde
hein,
ça ne paraît pas très compliqué quand même ce que vous décrivez.
Alors, il y a des stratégies de dépistage proposées non pas chez tout le monde, parce que je vous ai dit, il faut stratifier en fonction de l'âge. Avant 40 ans, c'est très rare d'avoir une maladie du foie et surtout des facteurs de risque. Mais chez les patients de plus de 40 ans avec des facteurs de risque, oui, il faut les dépister. Pour vous donner un ordre d'idée, 90% des patients obèses ont le foie gras et 90% des patients diabétiques de type 2 ont le foie gras.
Alors, je crois aussi qu'on peut suspecter une maladie du foie gras en mesurant simplement son tour de taille, c'est-à-dire ?
Alors, il y a soit l'index de masse corporelle, le poids sur la taille au carré.
L'IMC. Hein,
l'IMC, voilà, tout à fait. La définition du surpoids, c'est au-delà de 25. C'est 50% des Français adultes. Actuellement, l'obésité au-dessus de 30, c'est 17% des Français adultes. Le tour de taille, effectivement, c'est encore plus simple. Donc, le tour de taille idéal, c'est 75 cm pour une femme. Au-delà de 88, on considère que c'est un peu élevé. Pour les hommes... c'est au-delà de 100 cm, d'un mètre, qu'on considère que c'est excessif.
Bon, on prendra un mètre ruban tout à l'heure pour mesurer tout ça, Julien.
Avant la cantine.
La bonne nouvelle quand même, professeur, c'est que cette maladie du foie gras, on n'est pas encore donc, une fois dans la maladie de soda, mais l'étape d'avant, la phase d'avant, la maladie donc, du foie gras, c'est réversible. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Est-ce que déjà, puisque vous avez dit que le poids, ça compte, le tour de taille, ça compte, est-ce qu'en perdant du poids, bah, je peux faire maigrir mon foie, lui faire perdre du gras, justement ?
Alors, très clairement, jusqu'à présent, les seules mesures qui ont montré leur efficacité, c'est la réduction pondérale.
Mmh. Donc oui, maigrir, ça marche.
Maigrir, ça marche. On considère qu'il faut perdre 10% du poids initial pour avoir une efficacité non seulement sur le gras, mais également sur la NASH et probablement sur la fibrose.
Quand vous avez un patient qui perd, j'en sais rien, 15 kilos, admettons, vous aviez ce foie brillant à l'échographie avant et après, il a disparu, le gras, ça
absolument,
brille plus.
Absolument, on a des moyens assez simples de le suivre sur les prises de sang et sur l'échographie.
Il n'y a pas un régime qui marche bien, on en parle souvent dans cette émission, Mélanie, c'est le régime méditerranéen. Est-ce que ça, c'est bien pour garder un bon poids, mais aussi un foie en forme ?
Absolument. C'est le seul régime qui a montré son efficacité, le régime méditerranéen. Mais il ne faut pas oublier, d'abord, il n'y a pas de régime miracle. Moi, je n'aime pas le mot régime.
Non,
je parle plutôt
manière de manger, enfin.
Voilà, ou d'hygiène de vie, en fait. Voilà. Il faut changer d'hygiène de vie. Et dans le changement d'hygiène de vie, ça va de pair avec l'exercice. Parce que je vous ai dit, la sédentarité, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Hein. Beaucoup de Français passent plus de 8 heures devant leurs écrans. Et donc, il faut lutter contre ça. Et pour ça, il faut faire de l'exercice physique.
Donc, c'est vous qui avez organisé la panne des réseaux sociaux hier soir, effectivement, pour que voilà. Les gens se bougent un peu et
en foie
en bonne qualité. On imagine donc, avec ce régime méditerranéen, par régime hygiène de vie meilleure, perte de poids, ben, on imagine que ça passe aussi peut-être par zéro alcool et zéro sucre, si on veut enlever, enfin retirer ce foie gras.
Non, c'est pas possible d'avoir zéro sucre. Mais
des sucres naturels, en tout cas.
Voilà, il faut éviter clairement les aliments ultra transformés avec... des sucres qui sont clairement mauvais pour le foie. L'alcool, bien sûr, tout le monde sait que c'est mauvais pour le foie. Et je vous ai dit, lorsqu'on associe l'alcool à l'obésité ou au diabète, on augmente très significativement le risque de développer une maladie chronique du foie sévère.
Donc deux verres par jour et pas tous les jours, c'est pas mal comme repère.
Après, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je ne suis pas un directeur de conscience pour mes patients. Donc c'est au cas par cas. Mais c'est vrai que si on a deux facteurs de risque comme l'obésité et le diabète, et déjà une maladie du foie significative, j'incite mes patients à éviter la consommation d'alcool. Sinon, il faut respecter ce que vous avez dit. Deux verres par jour, cinq jours par semaine.
Oui, c'est déjà pas mal. Hein.
Je vous rappelle qu'on a atteint la parité, hein, puisque avant on faisait une distinction entre les hommes et les femmes, et maintenant c'est pareil pour les
mêmes repères
et les femmes.
Pour tout le monde. Deux verres par jour, pas tous les jours, cinq jours sur sept, on va dire, au plus.
Arrêtez,
vous avez le droit de boire moins, évidemment.
Alors vous dites aussi qu'une fois qu'on sait qu'on a cette maladie du foie gras, donc la NASH, direction le cardiologue et rapidement, pourquoi ?
Oui, absolument, parce que, bien sûr, ces patients sont à risque de développer une cirrhose, mais aussi des complications cardiovasculaires. Et d'ailleurs, c'est la première cause de mortalité, l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral.
Un mot quand même de la NASH, on l'a dit, évidemment, enfin, la maladie du foie gras, elle est réversible. Malheureusement, parfois, on arrive à cette maladie du foie gras, à la NASH, véritablement. On peut la soigner, cette maladie, ou pas ?
On peut la soigner et de plus en plus,
il y a des nouveaux médicaments, je crois.
Voilà, il y a beaucoup de médicaments actuellement à l'étude parce que, comme je vous ai dit, la réduction pondérale de 10%, ça marche. La mauvaise nouvelle, c'est que 90% des patients n'y arrivent pas. Mmh. Et c'est pour ça que sont développés actuellement beaucoup de molécules qui sont en phase 3, donc ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elles vont arriver sur le marché probablement d'ici 2 ou 3 ans. Avec des médicaments très intéressants, notamment des traitements contre le diabète qui pourraient avoir un effet également sur le poids et sur la NASH.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Castera, de nous avoir éclairé ce matin. Grâce à vous, on connaît mieux cet organe, notre foie, et on a bien noté tous les conseils pour le garder en forme le plus longtemps possible. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, professeur.